Bonjour à tous. Bienvenue et merci de suivre Simone et les philosophes, ce qui veut dire que vous prenez du temps pour mettre un peu de philosophie, voire beaucoup, dans votre vie. Et c'est justement la raison d'être de ce podcast, vous accompagner dans une découverte ou une redécouverte de la philosophie au quotidien. Cet épisode est consacré à une question incontournable quand on veut se livrer à des discussions philosophiques avec des amis, mais aussi avec soi-même. À savoir, qu'est-ce que philosopher ? Imaginons que vous souhaitiez débattre du sens philosophique, du travail, ou de l'existence, ou du bonheur, de la liberté, ou de je ne sais quoi d'autre. Chacun apportera des arguments, des sources et des éclaircissements très différents. Alors, à un moment ou à un autre, une remarque a de très grandes chances de tomber. Cette remarque sera la suivante. Tout cela dépend de ce qu'on entend par faire de la philosophie. Et en effet, certains auront défendu que le sens du travail est dégagé par Marx une bonne fois pour toutes dans les manuscrits de 1844, là où d'autres diront ce que leur propre expérience leur a appris. Et on ne saura pas ce qui fait que la discussion qu'on est en train d'avoir est vraiment philosophique. Faut-il faire référence à un ouvrage, à un auteur, ou bien l'expérience personnelle des individus constitue-t-elle un argument suffisant, etc. Face au doute et à la difficulté de la question, on peut se sentir démuni. Pour autant, cette question reviendra de manière lancinante et pourrait verrouiller des discussions ou les rendre inutilement violentes. Certains mettront en avant leur représentation de la philosophie, par exemple adopter un mode de vie propice au bonheur à partir de son expérience personnelle, tandis que d'autres insisteront sur une autre représentation, par exemple s'exercer à la cohérence logique de l'argumentation, ou bien lire les auteurs dans le texte, etc. Bref, pour désamorcer la chose dans des groupes qui souhaiteraient se livrer à des échanges philosophiques sans forcément faire appel à un expert extérieur qui viendrait trancher le débat, j'ai entrepris de faire le point sur cette question. En réalité, la question « qu'est-ce que philosopher ?» est en elle-même un problème philosophique qu'on ne résoudra donc pas en une phrase consensuelle. Mais tout de même, voir en quoi elle est un problème peut justement nous aider et de surcroît nous permettre de nous initier d'emblée à pratiquer ce geste fondamental de la pratique philosophique sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, à savoir la problématisation. S'il s'agit là d'un problème récurrent, à savoir qu'est-ce que philosopher, c'est que la philosophie n'est pas une discipline toute faite, avec des contenus théoriques tout faits. On aurait donc un ensemble de textes, des idées derrière ces textes et des philosophes derrière ces idées et ces textes, qu'il suffirait de se transmettre, comme si c'était neutre. D'ailleurs, on peut se demander si une telle discipline, au contenu apparemment figé, est bien possible, car derrière le mot qui désigne une discipline, il y a toujours une pratique, ou un ensemble de pratiques au pluriel, avec des méthodes qui sont différentes. L'histoire, c'est ce qui est relatif à des pratiques historiographiques, des manières de faire de l'histoire, et il en va ainsi de beaucoup de disciplines, aussi universitaires soient-elles. Bref, se demander ce qu'est une discipline, c'est confronter, en réalité, son verbe, ici « philosopher », c'est le confronter à la diversité des productions, des résultats, des œuvres, des actions qu'on rapporte à ce verbe. Alors, qu'est-ce que philosopher ? Eh bien, ce verbe recouvre un certain nombre de pratiques qui sont disjointes et peuvent même paraître contradictoires, d'où l'intérêt de la question. On peut en recenser trois, principalement. D'abord, premièrement, on entend par philosopher étudier des textes et des auteurs. Faire de la philosophie, c'est en ce sens se familiariser avec la culture philosophique, c'est-à-dire avec l'histoire de la philosophie, celle qui est enseignée dans des livres, dans des universités et différents supports médiatiques. Ici, c'est le travail de compréhension, d'assimilation et d'interprétation des textes qui est désigné. En ce sens, en ce premier sens, faire de la philosophie, c'est s'approprier un héritage culturel qui est dit philosophique. Et pourquoi est-il dit philosophique ? Eh bien parce qu'il a à voir avec des débats d'idées. Ça, c'est le premier sens. Deuxième sens, on entend par philosopher le fait de vivre en philosophe, c'est-à-dire de donner à ses actions une certaine cohérence en les rendant conformes à des principes qu'on se fixe. On parlera alors de sagesse. Souvent, ces principes ou ces règles sont élaborés en vue de poursuivre une fin agréable, comme le bonheur, la joie, la paix, la sérénité. En tout cas, il s'agit de se délivrer d'une forme de souffrance. En ce sens, la philosophie est un mode d'être, de sorte que c'est la vie qui témoigne de la philosophie de son auteur. Ça, c'est le deuxième sens. Donc philosopher, c'est vivre en philosophe. Troisième sens, apparemment disjoint, on entend par philosopher le fait d'exercer une capacité logique et dialogique, une capacité d'analyse critique à l'égard des énoncés qui sont proposés. Il s'agit là, entre autres, pour parler de manière très large, de ce que Kant désignait par une formule célèbre dans « Qu'est-ce que les Lumières ?», à savoir « penser par soi-même ». En ce sens, la philosophie est un travail de la pensée rationnelle et logique, ayant pour objectif d'acquérir une indépendance d'esprit, puisque cette analyse logique nous permet de nous libérer des opinions héritées par la tradition, d'acquérir une indépendance d'esprit qui est propice à la découverte d'une vérité, fût-elle une vérité sceptique ou critique. D'autres occurrences du terme philosopher peuvent être proposées, mais elles se rattacheront très vraisemblablement toutes à l'une ou l'autre de ces trois pratiques, de ces trois principales pratiques. Une fois relevées ces distinctions typologiques, une option serait de batailler pour l'une de ces représentations en faisant valoir la stérilité des autres, comme s'il fallait nécessairement choisir. On dira alors qu'il ne sert à rien d'étudier les auteurs, que le tout c'est d'être philosophe en vivant avec sagesse. Ou on dira qu'on ne peut pas vivre avec sagesse si on n'a pas d'abord travaillé son indépendance d'esprit par le développement de sa faculté logique. Qu'on ne pense bien par soi-même que si on se passe du recours aux arguments des autres penseurs, etc. Donc on peut cultiver les disjonctions. Mais tous ces rejets ne permettent pas de penser ce qui nous intéresse. Qu'est-ce que philosopher ? Et par là, de chercher ce qu'il y a de commun à ces différentes pratiques et qui justifie qu'on utilise le même mot. Or, il y a bien quelque chose de commun. D'abord, il y a dans ces trois gestes, dans ces trois pratiques, un même effort. Un effort de relier des productions de l'esprit, à savoir des questions, des arguments, des valeurs, des principes, des idées, de les relier avec la réalité de soi-même, des autres et du monde. Ainsi, comprendre des textes philosophiques suppose de chercher dans leur argumentation une forme de ce que Dilthey appelait une conception du monde que leur auteur propose. Donc comprendre un texte philosophique, c'est retrouver la conception du monde, la rapporter à la conception du monde que son auteur propose. Il y a donc, là encore, un lien qui est fait entre le texte que je cherche à comprendre et la réalité. Deuxièmement, chercher à vivre de manière philosophique, c'est chercher à agir en cohérence avec notre compréhension du réel, quelle qu'elle soit. Troisièmement, acquérir une indépendance d'esprit, c'est bien être capable de confronter les énoncés avec la réalité des signifiés que ces énoncés articulent, de manière à ne pas prendre des vessies pour des lanternes, par exemple, et ainsi à ne pas se laisser duper par les manipulations rhétoriques. Dans ces différents cas, il y a un même effort de comprendre la vie et le monde qui est requis. Mais que signifie cet effort en première instance ? Eh bien, cet effort atteste qu'il y a une équivocité de ce que nous cherchons à penser. Équivocité, ça veut dire qu'il y a plusieurs significations de ce que nous cherchons à penser. C'est dire que le réel n'est pas univoque, qu'il n'a pas qu'un seul sens, qu'il n'est pas évident, et qu'ainsi, il est toujours sujet à questionnement, à interprétation et à réinterprétation. Sur cette base, les accents ne s'excluent pas. On peut ainsi considérer que l'étude de l'histoire de la philosophie permet de mieux comprendre ce qu'on vit, et par là de mieux choisir comment vivre, ainsi que de nourrir l'esprit critique par sa richesse argumentative. On pourra donc mettre l'accent sur l'étude de l'histoire de la philosophie sans forcément rejeter les deux autres gestes, au contraire. On peut aussi considérer qu'on étudie bien les textes que si on est en mesure de les relier à des questions existentielles qui ne sont pas nécessairement les nôtres, et ainsi de les interroger avec une distance critique. On peut considérer aussi qu'on ne peut vivre avec sagesse que si on a exploré d'autres réponses possibles aux problèmes de la vie et si on est en mesure de ne pas se laisser influencer par les opinions des autres, etc. Enfin, on peut soutenir qu'on pense d'autant mieux par soi-même si on sait réapproprier notre héritage culturel, au moins une partie, et si l'on est soucieux de vérifier par nos actes la pertinence de nos discours. Bref, il n'est pas nécessaire de choisir entre ces pratiques philosophiques dès lors qu'on les a distinguées. On peut simplement retenir qu'est philosophique toute posture d'étonnement face à l'équivocité irréductible du réel. C'est donc une manière de considérer que la vie et le monde peuvent faire l'objet de compréhensions contradictoires, donc plurielles, et par là, qui sont autant d'arguments et de richesses possibles pour des échanges. Qu'ainsi, là où les contraintes d'ordre utilitaire nous poussent à manipuler les choses de la vie et du monde en supposant l'univocité de leurs définitions et leur caractère évident, on pense ainsi souvent que les mots n'ont qu'un seul sens, que les choses n'ont qu'un seul mot et un seul sens, et on postule que tout cela est évident. La philosophie, au contraire, repose dans une attitude de désobéissance à l'égard de tout ce qui se présente comme évident, y compris à l'égard des concepts philosophiques dont parlent les philosophes d'ailleurs. D'où l'importance du travail sur les définitions des mots, dont on pourra là aussi reparler. N'hésitez pas à me faire part de vos questions, notamment de vos questions d'éclaircissement, via le formulaire de contact du site simoneetlesphilosophes.fr. Elles pourront me conduire à envisager d'autres billets en cernant davantage les besoins spécifiques des auditeurs qui s'intéressent à la philosophie. Et si cet épisode vous a plu, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir par quelques étoiles sur iTunes ou par un commentaire sur le site. Au plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode de philosophie et à bientôt.